Chapitre 13. 1999. La place de la paix se situe à 100 mètres du Métropolis, au cœur du quartier des spectacles. Comme si Ilian avait tout programmé. Le film vient de commencer quand nous arrivons, à peine essoufflés, au moment précis où Dora tombe du haut de la grange sur un matelas de foin dans les bras de Guido. Bonjour, princesse. Immédiatement, le sourire de Guido Benigni m'éblouit. Il ressemble à celui du clown émerveillé qui me tient la main. Nous nous sommes installés au dernier rang, les fesses sur le béton froid, derrière la cinquantaine de spectateurs qui se tiennent devant l'écran géant, amarrés à l'autre bout de la grande place rectangulaire à deux gros blocs de béton. Certains spectateurs sont assis par terre, sur les pavés carrés entourés d'herbes folles, d'autres sur des chaises pliantes. Il ne lâche pas ma main. J'avais entendu parler du film, une fable sur les camps de concentration. J'avais eu peur de le regarder. Trop terrible, trop sensible. Pas un film pour vivre des instants de complicité partagée. Pourquoi Ilian m'emmène-t-il voir ça? Sur l'écran, Guido rivalise d'imagination pour séduire sa princesse. 30 minutes de film et toujours pas le moindre nazi. Rien qu'une sublime histoire d'amour, avec un grand timide qui utilise les stratagèmes les plus fous pour conquérir sa belle. Je souris. Il trafique les coïncidences. Une clé tombe du ciel. Une glace au chocolat arrive pile dans 10 minutes. Un chapeau mouillé par miracle devient sec. Incroyable ! S'écrie sa belle. Je n'ai rien vu de plus poétique et de plus romantique depuis les films de Chaplin. Guido embrasse sa princesse sous la table d'un banquet. « S'il te plaît, » supplie-t-elle, « enlève-moi. » Je chuchote à l'oreille d'Iliane. « Vous croyez qu'il en existe encore des hommes capables de ça ?» Mon guitariste se redresse. « Moi !» Davantage encore que cet Italien frimeur. Il fait mine de se reconcentrer sur le film. Je me rapproche encore pour lui murmurer. Crâneur. J'adore son petit sourire en coin. Il ne quitte pas l'écran des yeux. Peut-être, peut-être pas. Pour qu'un homme ose de telles folies, sa princesse ne doit pas avoir le cœur cousu. Cousu ou pas, mon cœur bondit. De surprise et de colère, à en exploser ses supposées coutures. Quoi ? Moi ? J'ai le cœur cousu ? Oui, cousu à un autre. Vous avez un mari. Dora aussi. Elle est fiancée avec un vilain fasciste. Elle attend que Guido vienne l'enlever. Dites-moi que votre mari est un affreux fasciste et j'accours vous délivrer. Ou même, ne me parlez pas de lui. Dites-moi seulement que vous n'êtes pas heureuse à ses côtés, et je vous promets de vous inventer la plus belle évasion amoureuse que la Terre ait connue. » Il a débité cela sans quitter des yeux l'écran. « Ça ne marche pas comme ça, Ilian. » « Je sais. » Je tente de me reconcentrer sur le film. 45 minutes de projection et toujours aucune trace des camps. Guido triomphe, emporte sa princesse sur un cheval vert en plein banquet. Son fiancé fasciste, les yeux révulsés, reçoit un œuf d'autruche sur la tête. Bien fait. C'est beau. C'est du grand cinéma. C'est si facile au cinéma de se faire enlever par un chevalier. Pas parce que les gentils y sont vraiment gentils, ce n'est pas ça qui différencie le cinéma de la vraie vie, mais parce que les méchants y sont vraiment méchants. On peut les faire souffrir sans haine. On peut les quitter sans peine. Ilian me tire la main. On s'en va. Vite. On ne regarde pas la fin. Du coin de l'œil, je continue de suivre le film. Le décor change. 5 ans plus tard, un adorable enfant sort d'un placard en saluant sa maman. Bonjour, princesse. Nous avions besoin de poésie. Ce n'est pas un soir pour la barbarie. Il fait doux. Il fait nuit. Venez, me fait-il. Où ? Voir la ville de plus haut, de tout en haut. Regardez, mademoiselle Hirondelle, le lac aux castors. Nous traversons le parc du Mont-Royal. Iliane m'indique du bout du doigt les reflets noirs d'un grand étang, bordé de pins et d'érables, comme téléporté du grand nord canadien pour faire respirer à la capitale les parfums des grands espaces. Le bassin ressemble à une immense piscine, balisée de dizaines de réverbères en forme d'allumettes géantes. Le lac aux castors, mademoiselle Hirondelle. L'association me trouble. Petit castor, c'est ainsi qu'Olivier me surnomme. Les ombres des arbres du Mont-Royal s'élèvent devant nous. Un dôme sombre, une montagne de 200 mètres de haut, surmontée d'une croix de fer illuminée. Une forêt au cœur de la ville, repère des joggeurs, des rollers, des lugeurs pendant les longs hivers de glisse et des amoureux pendant les brefs étés. Nous montons. Petit à petit, la ville se rétrécit. Les gratte-ciels qui nous écrasaient de leur masse ne sont plus que des cubes empilés sans ordre entre la montagne et le Saint-Laurent. J'ai appris qu'aucun immeuble n'a le droit de dépasser la hauteur du sommet du Mont-Royal. Nous parvenons au premier belvédère, dominé par la silhouette d'un grand chalet aux allures de pavillon chinois, devant lequel s'avance une vaste esplanade au nom étrange, Kondiaronk. Je pose mon sac, prends la main d'Iliane, écoute à peine ses quelques mots d'explication sur le légendaire chef Huron, préférant me concentrer sur le panorama sublime. La ville, hérissée de sa trentaine de tours illuminées, aux formes et éclairages tous plus inattendus, ressemble à une armée de géants en armure scintillante, rassemblés près du fleuve, mais incapables de le traverser. Du belvédère, le Saint-Laurent paraît aussi large qu'une mer. Il est près de 2 heures du matin. Nous ne sommes pourtant pas seuls. Quelques amoureux s'embrassent et se photographient. Un groupe de jeunes bois, assis sur les rambardes de l'esplanade. Les Montréalais dégustent les nuits douces jusqu'à la dernière goutte, comme on savoure les derniers fruits de l'été. Au loin, vers Mirabel, un avion atterrit. Je serre plus fort la main d'Iliane. Mon avion décolle ce matin. Je dois être à l'aéroport dans 3 heures. Nos visages sont noyés dans l'ombre. Nous ne parlons pas fort, mais nos voix semblent portées par le vent jusqu'au Saint-Laurent. Moi, je reste de ce côté-ci de l'Atlantique, répond Iliane, pour tenter ma chance. Ulysse m'a donné une ou deux adresses. J'ai aussi quelques amis dans le sud des États-Unis. Tout est dit. Iliane observe les jeunes alcoolisés à une quarantaine de mètres. Lève les yeux vers la croix éclairée, surplombant le sommet le plus élevé de la forêt, puis murmure « On y va !» Sans un mot, nous nous enfonçons dans le sentier forestier. Chemin Olmsted, lige sur les panneaux, de moins en moins éclairé au fur et à mesure que nous grimpons. Le panorama disparaît derrière les arbres. Personne, la nuit, ne grimpe jusqu'ici. Enfin seul. L'ascension nous prend à peine 10 minutes. La croix monumentale, visible de tout Montréal, paraît presque ridicule quand on se trouve à ses pieds. Une tour Eiffel miniature d'à peine 30 mètres de haut, érigée au centre d'une petite clairière, encerclée par des arbres qui semblent vouloir reconquérir leur territoire. Un pas sous les branches et l'on se retrouve dans les ténèbres. Iliane fait ce pas, avec moi. Je peux vous demander une faveur, Nati. Son visage se tient à quelques centimètres du mien. Je devine cette faveur. Je veux qu'il l'accueille. Qu'il l'accueille comme on cueille les fleurs, sans leur demander leur permission. Je vais rater ma vie, Nati. À un peu plus de 30 ans, c'est au moins quelque chose que j'ai compris. Qu'est-ce que vous racontez ? Ma mèche tombe devant mes yeux. Le visage d'Iliane est trop proche du mien pour que je la balaye. Oh, ne vous faites aucun souci pour moi, Nati. Ce n'est pas très grave. C'est au contraire terriblement banal. Je suis simplement née avec l'envie, mais pas le génie. Je ne serai jamais qu'un musicien qui sait bien jouer, qui aime bien jouer, comme des millions d'autres musiciens dans le monde. Au mieux, si je m'accroche, la musique me fera vivre. Il s'approche encore de moi, ma mèche flotte au souffle de sa bouche. On vient au monde avec tellement d'espoir, Natty. Devenir Hemingway, McCartney, Pelé, ou même Bill Clinton, Michael Jackson. Il y a tellement de rêveurs qui naissent dans chaque coin de la planète. Des milliards de rêveurs et tellement peu d'élus. Les couleurs de la croix changent au-dessus de nous. Encore un tour de magie? Elle passe de blanc à pourpre. Je ne sais quoi lui répondre. Que mes rêves à moi sont tout petits? Natty, j'aimerais une fois, rien qu'une fois, ressentir ce que ressent un être d'exception. Il tremble. Comment? En vous embrassant. Je tremble. Pense-t-il vraiment ce qu'il dit? Je n'ai que la force de plaisanter. Je croyais que vous n'alliez jamais me le demander. Ilian n'a même plus cette force-là. Ensuite, on ne se reverra jamais. On se promet de s'oublier. On se perd quelque part sur Terre, chacun de notre côté. Le monde est assez grand pour perdre ceux qui s'aiment. Je pose mon doigt sur sa bouche. Taisez-vous, Illy. Vous savez bien que la distance n'y est pour rien. Embrassez-moi. Embrassez-moi et ensuite, oubliez-moi. Il m'embrasse. Je l'embrasse. Cela dure toute la nuit. Du moins, ce qu'il nous en reste. Peut-être même que le soleil a hésité à se lever sur l'Atlantique, à inonder d'or la cime des sycomores, à faire briller de diamants les vitres des gratte-ciel jusqu'au premier reflet d'argent des rives du Saint-Laurent. Mais non, il ne s'en est pas privé. Je dois y aller. Nous redescendons main dans la main, dévalant le chemin Olmsted, éclairé par le petit matin. De ma main libre, dans la poche de mon jean, je caresse la pierre de temps. Je veux croire à ce que m'a raconté la vendeuse inuite il y a quelques heures, rue Saint-Paul. On ne peut pas arrêter un fleuve, mais on peut en retenir certaines gouttes. Je veux croire que ce moment, cette soirée, cette nuit, restera un souvenir à jamais intact, encadré, verni et accroché au-dessus du lit de la chambre de mes secrets. Même si la croix au-dessus de moi est redevenue une vulgaire ferraille, même si le belvédère Condiaronque où nous parvenons est jonché de détritus. Je rêve d'un adieu romantique. Un dernier baiser avant de sauter dans un taxi, pour refermer cette parenthèse magique. Nous n'avons rien fait d'autre que de nous embrasser. Nous caresser un peu aussi. J'en frissonne en me reboutonnant. Nous n'avons pas été plus loin. Olivier n'en saura jamais rien. Je l'aimerai mieux à mon retour. Je serai capable de l'aimer mieux. Je l'aiderai à m'aimer mieux, maintenant que j'ai goûté à cette intensité. Je veux m'en persuader. Nous atteignons le parc du Mont-Royal, dépassons le lac au Castor, apercevons déjà la circulation sur Hill Park Circle et le chemin de la Côte des Neiges. Quelques joggeurs nous croisent, fuyant bus, voiture, taxi. Un de ceux que je vais arrêter dans quelques minutes. Machinalement, ma main court le long de ma veste. Mes pensées se bloquent d'un coup. Mon sac, je l'ai oublié. Ilian se retourne vers moi. Vous êtes certaine? Où? Sur le Mont-Royal, au belvédère Condiaronque, je crois, ou entre le chalet et la croix, quelque part dans la forêt. Sans réfléchir, nous remontons, échangeant des mots affolés. Votre avion part dans combien de temps? 2 heures, mais je dois y être 1 heure avant, et je dois repasser à l'hôtel. Il y avait quoi dedans? Mes papiers, mon fric, tout, mon Dieu, tout! Ne paniquez pas, on va le retrouver. On ne le retrouve pas. On cherche, on s'énerve, enfin je m'énerve, au bord de l'hystérie. Ilian tente de me calmer, comme si tout était de sa faute. Sa présence bienveillante m'apaise, un peu. Mais les minutes défilent, je scrute ma montre, impossible d'attendre plus longtemps. Je repense aux jeunes sur l'esplanade hier soir qui ont disparu au matin en ne laissant que des cadavres de whisky canadien. Et s'ils l'avaient trouvé? Plus j'y repense et plus je suis persuadée de l'avoir laissé au belvédère Condiaronc. Et s'ils l'avaient volé? Peut-être juste l'argent, pas les papiers. Ils pourraient avoir balancé le sac à main dans un coin, un petit sac de cuir violet, n'importe où dans la forêt. Iliane et moi nous sommes séparés, à quelques mètres l'un de l'autre, regards fixés vers le sol, le goudron, les racines, la terre. Tant mieux, il ne peut pas apercevoir mes yeux dont les reflets bleus sont devenus verts de colère. Il finit par dire « Allez-y ». Je lève les yeux vers lui. « Allez-y, je vais continuer de chercher. Je vais faire ça tout le reste de ma vie. Si je le retrouve, je vous l'envoie, promis. » Je suis déjà en retard, je suis paniquée. Je dis seulement avant de m'enfuir en courant. Je suis désolée. J'arrive à l'aéroport Montréal-Mirabel, 45 minutes avant le départ de l'Airbus. J'ai réussi à téléphoner à Flo pour annoncer mon retard et prévenir que je n'avais plus aucun papier d'identité. Elle a tout arrangé. Je passe les contrôles de sécurité en priorité. Dès que je la retrouve sur le tarmac, juste devant l'Airbus A340, je m'effondre en sanglots dans ses bras. « Ce n'est rien, ma belle », assure-t-elle en me tapotant le dos. « Ce n'est rien, rien que des papiers. Ils voulaient te garder au Canada, mais après mon témoignage de moralité, ils préfèrent t'extrader. » Je souris, je murmure un « merci », puis je laisse à nouveau exploser mes larmes. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis tombée amoureuse. Amoureuse d'un garçon que je ne reverrai jamais.